Bonjour, je suis Nicolas Latour et je vous propose de découvrir le monde de l'intelligence artificielle avec notre invité, Henrik Lopez, qui est aujourd'hui à la tête de la stratégie et des initiatives sur l'intelligence artificielle pour la France chez Microsoft. Bonjour Henrik.
Bonjour Nicolas et puis bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
Ravi de vous avoir avec nous. Alors, dans la pratique médicale, l'intelligence artificielle, l'IA, est surtout connue en imagerie dans l'aide au diagnostic. Quels sont les autres champs d'application de l'IA dans le milieu médical ?
C'est vrai qu'on connaît très bien cet exemple-là, mais je pense qu'on peut, donner trois grands angles différents sur lesquels on va voir l'intelligence artificielle s'appliquer dans le domaine médical. Le premier axe, ce serait plutôt celui du parcours patient. Si je vous donne deux exemples concrets et même très récents, prenons le cas d'un patient qui se pose des questions autour de ses symptômes par rapport au Covid. C'est ce qui s'est passé pendant le début de la crise avec ce que l'on a mis en œuvre auprès des hospices civils de Lyon. Et là, il va pouvoir dialoguer avec un chatbot, on va dire un agent conversationnel, hein, qui était disponible sur le site web et qui permet de poser ses questions en langage naturel. Et ça permet effectivement, depuis le site internet, depuis ces premières questions, d'aider les patients à avoir rapidement les bonnes informations. Ça permet, grosso modo, de désengorger un centre d'appel. Si on reste dans ce parcours patient, on peut voir aussi l'agent conversationnel comme un outil qui va pouvoir donner la bonne information, répondre à des questions, identifier certains symptômes et utiliser ces informations pour faire un filtrage, entre guillemets, et un routage, un triage progressif pour donner aux patients les bonnes informations sur le bon service à contacter ou le bon spécialiste. Et clairement, si on imagine que le parcours patient en milieu hospitalier ou même depuis chez lui, on arrive à le digitaliser, à le numériser, à obtenir de l'information tout au long de ce parcours patient, en fait, on va générer quelque part de la donnée et avec cette donnée, on va clairement pouvoir avoir des scénarios très intéressants pour optimiser le suivi, voire même personnaliser le parcours de soins. Donc ça, c'est le premier angle, celui du parcours patient. Après, il y a bien entendu celui du praticien. Alors, l'intelligence artificielle, c'est clairement un outil qu'il faut voir pour automatiser et aider dans des tâches qui auraient moins de valeur ajoutée. Par exemple, automatiser des choses qui seraient peut-être un peu rébarbatives. D'ailleurs, je crois que beaucoup de médecins, de praticiens aujourd'hui utilisent la prise de notes en dictée vocale. Et là, on a l'intelligence artificielle qui permet de comprendre ce qui est dit et de traduire cela directement en texte. Mais si on va un peu plus loin, on peut avoir de l'intelligence artificielle qui va comprendre les éléments qui se trouvent dans cette prise de notes, identifier les mots-clés avec de la compréhension du langage et donc pouvoir après faire des corrélations et faire des suggestions et aider à la décision. On a un exemple qui est assez intéressant d'une start-up française qui s'appelle Synapse autour de la iatrogénie médicamenteuse. La start-up a clairement mis au point un outil d'intelligence artificielle qui va aider dans l'identification des contre-indications et des interactions médicamenteuses parce que les praticiens ne sont pas forcément sachants sur l'ensemble des possibilités d'interactions valables ou dangereuses. Donc, en analysant le traitement du patient et éventuellement la prescription, on va pouvoir alerter. Ce sont aussi des scénarios pour identifier les signaux forts et les signaux faibles de symptômes dans un cas, par exemple, dans la vaccination du Covid. Après, c'est vrai que l'exemple que vous avez cité, qu'on a tous en tête, c'est l'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale pour identifier, par exemple, des tumeurs, pour analyser des électrocardiogrammes, etc. Il y a un cas qui est assez intéressant au CHRU de Nancy, avec lequel on a travaillé avec effectivement les médecins pour analyser les courbes du sommeil et aider au prédiagnostic. En fait, là, on voit que c'est pas l'IA qui va faire le travail, mais qui va dégrossir, si vous me permettez, le travail et permettre d'analyser énormément de données et d'analyser la qualité du sommeil des patients et de pouvoir donner rapidement des outils aux praticiens pour qu'ils puissent se concentrer en fait sur son expertise ou l'orienter vers une documentation ou vers un autre expert. On voit que en fait, l'intelligence artificielle, elle va être extrêmement performante quand on a beaucoup d'informations et elle va pouvoir rapidement faire le tri, ce qui est beaucoup plus difficile pour un praticien, qu'il soit généraliste, voire même certains spécialistes, parce que ça devient de plus en plus difficile d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble des publications. Et donc, avoir rapidement la bonne information qui est suggérée, pouvoir faire le tri, pouvoir se concentrer sur des éléments dans son métier, ça c'est extrêmement important. Puis enfin, il y a le troisième exemple qui relève plutôt de la recherche et développement. Et là, on va avoir des scénarios où l'intelligence artificielle va, par exemple, régler une problématique qui est assez importante, c'est comment trouver les bonnes cibles thérapeutiques quand on veut traiter quand on veut appliquer un traitement. Donc identifier les bonnes cibles thérapeutiques en fonction d'un certain nombre de critères pour les inclure dans une étude clinique. Ça peut être aussi très intéressant dans la pharmacovigilance pour détecter des signaux faibles à partir d'informations que l'on reçoit, voire même des faux positifs, voire même identifier des nouvelles pathologies. Il y a beaucoup de champs d'application dans la recherche et développement. Si on imagine les jumeaux numériques, notamment les jumeaux numériques sur des molécules, si on veut commencer à analyser l'impact positif ou pas de certaines molécules dans certains traitements, grâce à ces jumeaux numériques et à de la simulation qu'on pourrait faire avec de l'intelligence artificielle, on va pouvoir effectivement voir les corrélations et c'est assez intéressant. On le voit beaucoup utilisé notamment dans la partie analyse génomique et interaction. Donc voilà un peu pour résumer les trois champs d'application vers le patient dans son parcours pour aider le praticien dans sa vie de tous les jours et puis dans des scénarios de recherche et développement.
Alors, l'IA, c'est aussi un peu pour certaines personnes cette image de science-fiction dans laquelle la machine surpasse l'être humain et finit par prendre sa place. Est-ce que les robots intelligents vont un jour remplacer les professionnels de santé?
Il y a un fantasme qui est très mis en avant par la littérature ou par les médias, les films, etc., autour de la super intelligence et du remplacement de l'IA malfaisante, etc. Je vais être très, très clair, pour plein de raisons, et on va en évoquer quelques-unes, l'intelligence artificielle va pas remplacer l'humain. Et l'exemple que j'ai envie de donner, parce que souvent on le voit, c'est celui du radiologue, si on prend dans le domaine médical. On a tendance à effectivement à avoir des études qui nous montrent, alors je vais donner quelques ordres de grandeur de chiffres, même s'ils sont pas exacts, mais où on va avoir une intelligence artificielle qui va avoir un taux de réussite de compréhension de ce qu'il y a dans des images ou de détection de tumeurs qui va être de 95%, alors que on va la comparer à des praticiens et qui vont être aux alentours de 93%. Donc on peut dire, ah bah, l'IA est largement meilleure. Alors déjà, pas largement, 2%, mais déjà, on biaise la manière de raisonner parce que si on compare, pardon, une intelligence artificielle qui a été entraînée sur des tonnes et des tonnes d'images, on peut se dire qu'elle a été entraînée en fait sur l'expérience de, je sais pas moi, de milliers de praticiens, peut-être 10 000 praticiens, alors qu'un praticien, bah, lui, il a sa propre expérience qui est unique. Donc, comparer ces 95% à ces 93%, c'est pas équitable. Après, ce qu'on dit jamais. Et si on mène des tests très concrètement, c'est de regarder qu'est-ce qu'il se passe si on prend le même praticien, celui avec ses 93%, ce qui est déjà extrêmement bien, et qu'on lui donne l'outil. Et là, on va s'apercevoir qu'on va avoir un taux de réussite qui est supérieur à 95%, par exemple 97%. Et ce 97%, on serait même incapable d'aller le chercher rien qu'avec de l'intelligence artificielle. Donc, d'un point de vue, on va dire résultat pur, résultat brut, déjà. C'est pas la bonne manière de voir que de se dire l'IA va remplacer le radiologue. D'autre part, faut pas oublier que il y a une dimension humaine qui est éminemment importante. Et que là, dans cette domaine, dans ce domaine, quel qu'il soit, et en l'occurrence dans le domaine médical, la partie empathie, la partie réflexion, la partie qu'on ait affaire à un expert ou un généraliste, on ne va jamais avoir une intelligence artificielle qui va remplacer cette partie-là. Il y a vraiment un besoin de plus en plus de transversalité, de réflexion plus stratégique. Et tout ça, ce sont des catégories, on va dire, d'intelligence où la machine est vraiment très loin d'être au niveau, voire même elle est nulle part. Donc, pour ces éléments-là, on n'aura pas d'IA qui arrivera à faire ce genre de tâches. Et puis, faut pas oublier aussi qu'il y a quand même une dimension réglementaire, une dimension éthique, surtout dans le secteur médical, et on laissera toujours un humain dans la boucle. Donc, que ce soit dans la relation entre le patient et le généraliste, que ce soit dans les compétences qui sont beaucoup plus transversales, l'humain sera pas remplacé. Par contre, la vraie question, c'est comment on fait pour avoir une collaboration entre l'intelligence artificielle et le praticien.
Et justement, comment l'IA peut-elle faire évoluer finalement la relation patient-médecin?
Eh bien, je pense que c'est là que c'est intéressant et c'est valable sur plein d'exemples. Mais si on prend celui que j'ai donné, par exemple sur la prise de notes ou sur se concentrer et avoir la bonne information, etc. Si on est soulagé d'une certaine forme de tâche qui est récurrente ou qui est une tâche administrative, on peut être largement plus concentré. Imaginez le praticien qui est là, qui n'a plus de problématique à même à dicter, c'est-à-dire que pendant qu'il fait son rendez-vous avec son patient, automatiquement, c'est enregistré. Voilà, il n'y a même plus à faire l'action. Mais il peut être 200% concentré sur ce que le patient est en train de dire, de lui-même, justement, comprendre ce qu'il y a en filigrane, dans la manière dont le patient s'exprime, dans le contexte du patient, l'environnement du patient, dans des choses que seul, entre guillemets, un humain a la subtilité de comprendre. Donc, on va aussi imaginer que l'intelligence artificielle va le soulager, le médecin, dans la recherche documentaire pour rapidement trouver les quelques bonnes informations ou documentations. Et donc, il va pouvoir se concentrer vraiment sur ces éléments-là. Donc, il est soulagé de choses qui sont un peu administratives pour être plus dans la relation patient ou plus approfondir des domaines qui sont liés à quelque chose qui va demander sa véritable expertise, de lire des nouvelles de documentation, voire même peut-être de travailler des choses qui sont plus transversales, parce que s'il est soulagé sur certaines tâches, ça va lui demander de pouvoir se concentrer ou de pouvoir travailler ce qu'on appelle les compétences transversales, les fameuses soft skills, que ce soit sa relation au patient, ses collègues, la collaboration avec d'autres praticiens, ou alors même travailler certains domaines d'expertise. Et c'est ça que l'intelligence artificielle va clairement rendre possible, que d'ouvrir dans cette collaboration à des compétences, se concentrer vers des compétences plus métiers, voire même des compétences humaines.
Et si vous deviez conclure en quelques mots, que retenir de vos propos?
Moi, j'ai envie de dire que il faut voir l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va amplifier l'ingéniosité humaine. L'intelligence artificielle, elle est déjà présente dans le monde de la santé. Ça va certainement s'accélérer dans les années à venir. On va avoir une collaboration entre l'IA dans la médecine courante et elle ne remplacera pas le praticien pour plein de raisons. On l'a vu, des raisons d'empathie, des raisons éthiques, des raisons juridiques. Mais on va avoir clairement une collaboration et on va pouvoir avoir des praticiens qui vont encore plus se recentrer sur soit leur expertise, soit la relation patient et enseignant, c'est-à-dire dans la dimension vraiment humaine, ce qui fait clairement l'ingéniosité de l'homme.
Eh bien, merci beaucoup, Henrik, et je vous souhaite, ainsi qu'à tous nos auditeurs, une excellente journée.